C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Les applications de rencontre sont devenues le terrain de chasse de malfaiteurs organisés qui ciblent spécifiquement les hommes gays. On appelle ça des guet-apens ou des pièges à Grindr. Notre invité, Eddy Renaud, est un militant associatif qui pensait bien connaître les risques. Pourtant, en février 2025, à Nice, il a basculé dans l'horreur. Eddy, tu as choisi de parler à visage découvert, malgré la violence que tu as subie, parce que tu estimes que la peur doit changer de camp. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage essentiel. Avant d'aller plus loin, dans cette entrevue, ben, elle contient des descriptions de violences physiques et de détresse psychologique, et je préfère vous en avertir. Il dit bienvenue à l'émission. Sans entrer dans tous les détails techniques de l'application Grindr, comment ce rendez-vous semblait-il banal? Comment est-ce que ça a pu bousculer en quelques secondes?
Une simple phrase. Une simple phrase froide d'un jeune homme. Donne-moi ton argent, t'as combien? Voilà. Tout a basculé par cette phrase et c'était voilà, dans une impasse. On devait donc aller chez cette personne, ce jeune. Et puis, par cette phrase, ça a basculé. Je me suis retrouvé à frôler le mur d'une impasse et les mains de ce jeune homme se sont retrouvées sur le col de ma veste, en répétant la question pour m'intimider. Et vu que je n'avais pas peur, enfin, je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas essayé de me débattre, je l'ai fixé dans les yeux. Bon, est-ce que ça a déstabilisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a permis peut-être de ne pas recevoir davantage de coups. Et ensuite, il a remis sa main sur mon cou, cette fois-ci pour m'étrangler, voilà, et pour me laisser parler, en fait, voilà. À un moment donné, il m'a dit « N'aie pas peur, je te parle gentiment ». Donc, voilà, c'est allé assez vite. Entre-temps...
Il n'y avait aucune raison de croire que c'était quelqu'un de violent. Là. Vous aviez vu, tu avais vu les photos, tu savais...
Oui.
Puis tu disais, bon, le rendez-vous était donné dans un endroit public, bien que c'était un petit peu à l'écart quand même, hein?
Oui, c'était une avenue qui se finissait en impasse. Et puis, en fait, je devais être seul avec cette personne. Et en fait, ils étaient deux, à parler calmement. Et puis après, et en fait, entre la discussion, enfin, quand je les ai retrouvés, le plus petit, autour d'un mètre 50, 60, est resté en fait en contrebas de l'impasse. Et ce jeune homme, ce plus grand jeune homme que moi, enfin, moi je suis un 89, mais lui est beaucoup plus petit, aux alentours d'un mètre 80, mais en tout cas il était moins grand, mais plus baraqué que moi. Et lui je l'ai suivi, et arrivé dans cette impasse, voilà, c'est là qu'il m'a dit cette phrase, t'as combien en argent? Voilà, c'est là où tout a basculé.
Alors là, pour ceux qui veulent, je donne quand même quelques détails, tu as subi des violences physiques extrêmes. On parle de traumatisme crânien, blessure à la mâchoire et au coccyx. À quel moment tu réalisais que c'était une attaque préméditée et non juste un simple vol?
À partir de cette phrase, en fait, où tout a basculé, quand très vite, il a commencé à m'étrangler, mais suffisamment pour que je parle. Je restais féroce, mais bon, je sentais quand même que je ne maîtrisais plus la... Enfin, que j'avais aucune chance de m'en sortir. Je pensais vraiment que j'allais mourir ce jour-là. Et puis, en fait, entre-temps, son camarade, on va dire l'agresseur passif, et lui, c'est l'agresseur actif. L'agresseur passif est arrivé, et lui, il a serré jusqu'à l'asphyxie, le plus grand. Et puis après, j'ai perdu connaissance, et je me suis réveillé. Mes yeux sont réouverts quand ma tête a heurté le mur. Voilà, donc c'était le traumatisme crânien. Et puis, trou noir à nouveau, donc j'ai à peu près une perte de connaissance d'une heure. Et puis, je me suis réveillé courbé. Et à partir de là, c'est là que je me suis dit... qu'est-ce qui m'est arrivé, puisque j'avais perdu la mémoire.
Ah bon?
Voilà, une courte mémoire, mais j'avais quand même perdu la mémoire.
Donc, aucun moyen de se rappeler de quoi avaient l'air vraiment les agresseurs à ce moment-là?
Non, j'ai même pas pu faire un portrait robot. Je savais juste que le plus grand portait un survêtement rouge et des baskets noires, des cheveux frisés. Et le plus petit, j'ai plus donné aucune description. Donc, Voilà, j'ai un trou de mémoire d'une heure. Impossible de retrouver cette mémoire. Et quand je me suis réveillé, enfin, dans cette impasse, j'ai perdu le. Enfin, je me souvenais plus de pourquoi j'étais là, ni dans quelle ville, dans quel pays. Enfin, même mes proches, je les avais oubliés.
Ouf.
Après, c'est arrivé petit à petit, mais en tout cas, je ne peux pas me souvenir de mes agresseurs. Donc, en tout cas, voilà. Après avoir été étouffé et qu'on me retrouve, enfin que je me retrouve même dans cette impasse, là j'ai aucun détail. Donc comme j'ai souffert du coccyx, on m'a sûrement donné des coups, voilà. Mais ça je ne m'en souviens pas. En tout cas, je ressentais les douleurs. Après, ce que je peux dire, c'est que j'étais habillé, donc on ne m'a pas violé. Enfin,
Ouais.
après on aurait pu me faire des attouchements, mais ça je ne le sais pas.
Alors, malgré la brutalité là, de tout ça, t'as quand même réussi à garder un certain calme durant l'agression. Qu'est-ce qui a fait que tu as gardé ce calme? Ton instinct de survie ou carrément le fait aussi que tu es un militant?
En fait, j'aime beaucoup analyser les autres. Et je n'ai. Étant donné que je n'ai pas vraiment l'habitude, moi, de. Je n'aime pas me débattre. Enfin, disons que mon instinct de survie, ah oui, a joué un rôle fondamental, en quelque sorte. Mais pour moi, je savais que enfin, je ne pensais pas que j'allais survivre. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire ce que je sais faire de mieux, c'est analyser, j'ai essayé de l'analyser et je me suis dit, bah, en fait, il n'y a aucune raison de d'hurler, de paniquer parce qu'il risque peut-être de me frapper, enfin, en tout cas de me donner un coup qui sera impardonnable. Donc, je suis resté féroce en le regardant dans les yeux pour le déstabiliser et ça a fonctionné, enfin, ça a sans doute fonctionné parce que, enfin, on ne saura peut-être jamais, mais en tout cas, grâce à le fait d'avoir analysé cette personne, je m'en suis pas mal tiré.
En tout cas, je t'avoue que certaines personnes qui auraient vécu ça seraient prises de panique et auraient hurlé, mais c'est peut-être ça qui t'a aidé. Aujourd'hui, où en est l'enquête?
L'enquête, où est-ce qu'elle en est malheureusement? En avril, donc l'affaire a été ouverte le 9 février à peu près. Une réquisition judiciaire a été envoyée à Grindr, pardon Emma pour mon français, pour mon anglais, enfin, qui est très mauvais. Grindr, et à ce jour, Grindr n'a toujours pas répondu. Donc l'enquête a quand même été menée. En avril, a été classée. Et en juillet, elle a été réouverte. Parce qu'apparemment, enfin, il y avait encore eu de nouvelles agressions. Et en fait, c'était pas eux. Donc voilà, l'affaire a été classée fin juillet 2025.
On pointe du doigt, en fait, tu pointes du doigt Grindr, parce que Grindr
Oui.
ne collabore pas, n'aide pas les enquêtes policières ou les enquêtes
Jamais.
judiciaires.
Aucune.
Ouais.
Voilà, française ou internationale.
Ouais. Donc, il faut dénoncer ça.
Oui, dénoncer, oui. Je pense qu'il faut qu'au bout d'un moment, à un moment donné, les applications de rencontre. Bon, là, c'est Grindr, mais ça peut être Tinder, ça peut être. Il y a d'autres applications, hein, françaises, enfin internationales, je veux dire. Il faut que eux communiquent, parce que ils ont quand même des abonnés. Ces abonnés, enfin, doivent quand même être en sécurité. Et si, en tout cas, si, enfin, bon, enfin, en sécurité, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il faut que,
Faut mieux
au
protéger les.
moindre
Ouais.
problème, il faut que, voilà, qu'ils coopèrent avec les services de police. Ça c'est pour au moins les retrouver.
J'aimerais.
Ils ont
Ouais,
les adresses mail,
ouais.
les numéros, enfin, ils
Les
ont tout
adresses
un tas
IP,
de.
il y aurait façon de retrouver.
Exactement,
Ouais.
c'est ça.
J'aimerais, Eddie, reparler de toi parce que au-delà des blessures physiques, là, il y a quand même des séquelles à tout ça. Tu vis avec une hypervigilance, des crises de panique. C'est continu, ça se continue toujours, ça?
Oui, ça continue. Il y a quelques semaines, je me suis réfugié dans une laverie parce que j'ai fait une crise de panique. Mais bon, voilà, ça s'est pas reproduit depuis. Enfin, en tout cas, d'une telle violence. Je pense que je suis encore terrifié, moins à l'idée de sortir le début de soirée. Mais je suis quand même, voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'hypervigilance. Dès que j'entends des pas derrière moi, je m'arrête, je laisse passer. Après, oui, les bains de foule, je les évite, mais bon, j'habite dans une grande ville, donc je ne vais pas, enfin, je peux pas ne pas sortir de chez moi. Donc, j'apprends à vivre avec, voilà. J'apprends à vivre avec et je n'oublie pas.
Ce
N'oublie pas et
témoignage,
j'avance.
aujourd'hui, tu parles de ton devoir de militant, de partager ton témoignage. C'est quoi là, les signaux d'alarme que la communauté devrait surveiller là, dans ce genre de situation?
Ben, il n'y a pas vraiment de signaux parce que c'est vraiment compliqué. Je pourrais dire, en fait, que peut-être se voir, peut-être dans un pour tout type de rencontre, hein, sans préciser, mais se voir dans un café, dans un restaurant, enfin un lieu public. Et en même temps, après, la personne en elle-même peut passer à l'acte, si elle veut. Elle peut être violente. Donc, on peut, en fait, en fait, non, je peux rien dire. Enfin, à part ça, faut-on tenir au café, au restaurant, enfin, faut-on tenir au lieu public, mais où aller, à la limite, dans des lieux, des espaces communautaires, à la limite, voilà.
Moi, je pense que je peux t'amener
C'est pas
ici. Il y a
compliqué, mais
eu, oui,
je.
il y a eu à Sherbrooke, il y a quelques années, deux personnes qui ont été agressées là, dans un guet-apens Grindr qui refusent de parler parce qu'ils ont honte, en principe, de ça. Et toi, tu dis que la honte doit changer de cas.
Oui, c'est pas aux personnes victimes ou témoins de ces agressions qui doivent avoir peur ou se sentir humiliées, c'est l'inverse. C'est les agresseurs masculins, féminins, qui doivent avoir peur et être gênés. Enfin, où va-t-on si maintenant. Enfin, où va-t-on? On peut plus vivre, enfin, vivre libre. Et, enfin, on est heureuse et heureux, enfin, dans son genre et avec son orientation sexuelle, amoureuse ou romantique. Donc, je pense que faut pas se laisser faire, ou en tout cas se laisser, oui, se laisser envahir par des personnes mauvaises. Alors, bon, en tout cas, témoigner, il faut quand même se sentir pris, puis il faut aussi être en sécurité. Se sentir en sécurité et libre, moi je le fais parce que j'ai quand même cette liberté et puis parce que je suis cette. Voilà, c'est mon devoir de militant, mais après, chaque militant réagit pas de la même manière. Enfin, voilà, chaque être humain est différent,
Okay.
donc.
Chaque personne agit différemment, oui. On va devoir se
Voilà, je
terminer.
n'en voudrais pas si vous témoignez pas.
Ouais, on va devoir terminer là-dessus, mais je vais quand même dire que ton témoignage, Eddie, nous rappelle que derrière l'écran, là, la vulnérabilité, elle est réelle et que la haine cible encore violemment nos communautés. Fait que je rappelle donc l'importance aussi de signaler tout comportement suspect, ne pas rester isolé après une agression.
De déposer plainte
Déposer
aussi.
plainte.
Oui.
Merci beaucoup, Eddie, d'avoir pris le temps
Merci
de
à
nous
vous.
parler. C'était Eddie Renault qu'on a rejoint à Nice, qui a été victime donc d'un attentat Grindr. Il est membre de SES Homophobie. Merci.
Merci.